Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Radio Okapi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La République unie de Tanzanie reste engagée à travers la MONUSCO dans la lutte pour la neutralisation de rebelles ougandais des ADF actifs dans le territoire de Beni en Nord-Kivu. Son ambassadeur accrédité en RDC, Paul Ignace Mela, l'a affirmé le lundi 11 décembre à Kinshasa, à l'issue de la cérémonie d'hommage au casque bleu tanzanien. Ces derniers ont été tués la semaine dernière au cours d'une attaque des présumés ADF au bord du pont Semuliki sur l'axe Mbao-Kamango. Selon Paul Ignace Mela, cette attaque ne va pas freiner les efforts de son pays dans la lutte contre les ADF. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-4969 et 09-97-06-4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez aussi rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs pour commenter ces sujets. Polydor Basunga est à la mise en onde de ce programme réalisé par Nico Kalambay et Pierrot Elameji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot Elameji.
Selon l'ambassadeur de la Tanzanie à RDC, nous allons poursuivre nos efforts même si nous avons perdu 14 de nos militaires. Et pour cela, le travail va se poursuivre normalement et la Tanzanie n'a jamais dit qu'elle se retire, a déclaré l'ambassadeur, je le disais tout à l'heure, après cette attaque contre les militaires tanzaniens de la MONUSCO. Que pensez-vous de cet engagement jusqu'au bout pour mettre fin aux atrocités commises par les ADF en RDC? Nous en parlons avec vous et nous avons associé à cet échange M. Augustin Mongo Mossi, analyste politique, et vous avez publié dernièrement un ouvrage très intéressant, La Nouvelle Géopolitique de l'Afrique Médiane. Monsieur Mongo Mossi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Parlez-nous un peu de cet engagement de l'ambassadeur tunisien. Comment, plutôt tanzanien, comment vous analysez, malgré l'attaque contre la base, mais la Tanzanie reste engagée aux côtés de la RDC pour l'aider à mettre fin aux atrocités commises par les ADF?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aux auditeurs de la Radio Okapi. Ce que vous devez d'abord savoir, la Tanzanie n'est pas là parce que c'est la Tanzanie. D'abord, c'est une mission des Nations Unies. Ils sont là dans le cadre des Nations Unies, État membre des Nations Unies. Et ensuite, ils sont là pas simplement pour les besoins d'être là. Ils sont là pour la pacification et la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo, qui est à la fois un intérêt qui préoccupe la Tanzanie. Rappelez-vous que nous sommes voisins entre la RDC et la Tanzanie, c'est-à-dire la sécurité dans la partie est de la République, puis à long terme, avoir des répercussions de l'autre côté. C'est-à-dire si les Tanzaniens sont là, ils sont d'abord là pour un besoin, c'est la sécurisation de la partie est, et ensuite, c'est aussi leur intérêt. Il va de soi qu'ils ont besoin d'une République de paix. Ils n'ont pas besoin de conflits ou de guerres à l'est, parce que cela peut avoir aussi de répercussions du côté de la République sœur de la Tanzanie. Voilà.
Et alors, vous l'avez dit, c'est une question d'intérêt régional, c'est une question aussi d'intérêt global. Mais quand on regarde dans les faits aujourd'hui, la Tanzanie opère sous la bannière des Nations Unies, mais quelle pourrait être l'implication des autres pays de la sous-région dans cette dynamique? Parce que rappelons qu'elle intervient au nom des Nations Unies, mais quand même la RDC et les autres pays de la sous-région se trouvent dans une certaine dynamique qui doit avoir quand même la responsabilité sur terrain.
Oui, mais le problème, c'est ça, tout le problème. Quand vous lisez mon livre, sur la nouvelle géopolitique de l'Afrique médiane, c'est ce que je suis en train de parler. Je demande aux États de la région de pouvoir construire une alliance stratégique. Parce que le problème que vous voyez aujourd'hui, le problème de la démocratie du Congo, vous savez, à long terme, cela peut embraser la sous-région. Rappelez-vous que la RDC a 9 voisins plus un voisin maritime, l'océan Atlantique. Donc, tout le monde doit travailler pour la paix en République démocratique du Congo. Les Tanzaniens le savent. Hein? Détrompez-vous, ils le savent. Ils savent que l'insécurité en RDC pourra produire des effets néfastes de l'autre côté. Mm-hmm. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que même dans le cadre de la mission des Nations Unies, les Tanzaniens ont aussi un intérêt particulier. C'est celui de la sécurisation de la région. Ils n'ont pas simplement besoin de rester pour les besoins de l'être. On peut dire qu'ils ont des intérêts peut-être cachés ou quoi, mais moi je vous dis la vérité d'abord. La pacification du Congo, c'est une question qui touche les 9 voisins de la région. Parce que si au jour d'aujourd'hui, nous avons un Congo fort, sachez-le qu'à long terme, nous aurons une Afrique forte. Mm-hmm. C'est ça le problème. On doit, au niveau de la sous-région, on doit construire ce que moi j'appelle l'union des États de l'Afrique médiane. Pas une union douanière, pas une union commerciale, pas une union un marché, non. D'abord, une union stratégique construite autour d'un intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'abord la sécurisation des milliers qu'on appelle l'Afrique médiane, mais aussi la sécurisation des biens et des personnes. C'est alors qu'on pourra construire une Afrique développée de puissance. Mais si on n'a pas une union qui pourra intervenir dans les cas d'espèce, comment voudrez-vous que l'Afrique se développe? C'est presque impossible.
Voilà. On pourra revenir à vous pour évoquer ce que vous avez proposé dans votre livre autour de l'alliance stratégique des États de la sous-région. On va revenir à ça. Mais c'est très important que ces pays, la Tanzanie, qui est engagée aux côtés de la RDC, la sécurisation de l'espace en RDC, a des corollaires, n'est-ce pas, dans toute la sous-région, y compris les 9 voisins du pays. Alors, on va ouvrir notre standard pour prendre les auditeurs en direct. Charles, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Pirot.
On vous écoute, Charles.
Merci beaucoup, Monsieur Pirot, pour m'avoir accordé la parole et la confiance que vous nous accordez. Permettez-moi rapidement, Monsieur Pirot, de saluer d'abord tous les intervenants dans cette mission et les milliers des auditeurs qui vont nous suivre dans cette émission. Monsieur Perrault, je commence d'abord par présenter rapidement mes condoléances aux familles des militaires qui ont été fauchés dans cette attaque que nous sommes tous en train de déplorer. Pour aborder le sujet d'aujourd'hui, Monsieur Perrault, il y a un adage qui dit « Lorsque la case ou la maison de votre voisin est en train de prendre feu, il faut rapidement intervenir. » Il y a quelques questions que j'aimerais rapidement énumérer. La première question est celle-ci. Pourquoi les militaires tanzaniens sont dans notre pays? La réponse est claire. C'est pour la neutralisation des rebelles qui sont en train de déranger notre population à l'est et la sécurisation. La deuxième question rapidement. Comment ils sont arrivés ici? Ils ne sont pas tombés du ciel. C'était juste pour une invitation, comme l'a dit l'invité, vu la pousse de notre pays, vu l'insécurité qui est en train d'être menée dans notre pays, si les militaires n'interviennent pas, ça va poser tout un grand problème au niveau de notre pays et au niveau de l'Afrique. Donc ils étaient invités justement pour venir nous prêter main forte pour sécuriser notre population. Quel est l'impact de ces militaires-là dans notre pays? Peut-être ici, chez nous, à Kinshasa, cela n'est pas vraiment connu, mais il faut aller à l'est. Monsieur Perrault, ce sont les militaires qui sont en train de travailler sérieusement. La fois passée, quand on a été à l'est, il y a même certaines personnes qui ne voulaient même pas que les militaires des Nations Unies puissent quitter, parce que quand ils sont là, la population est dans la sécurité. Peut-être ici, à Kinshasa, on ne voit pas vraiment ça, mais à l'est, la présence des militaires des Nations Unies a un impact très capital pour la sécurisation de notre population. Maintenant, ils ont été fauchés, ils ont été attaqués. C'est un acte que nous sommes tous en train de condamner avec notre dernière énergie. Mais la question est celle-ci. Que faire maintenant? Moi, je dirais tout simplement, nous demandons à tous ceux qui sont restés de ne pas se décourager, de ne pas croiser les bras. Nous les soutenons parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour notre bien.
Merci.
Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas bien les visualiser, mais demain ou après-demain, lorsqu'ils vont partir, nous verrons qu'ils ont rendu Merci. Un énorme service dans notre pays.
Merci beaucoup, Charles. C'est un appel que vous avez lancé. Vous avez expliqué d'abord les contextes historiques sur terrain et le rôle que jouent ces militaires, l'ensemble de militaires des Nations Unies au pays pour ceux qui ont visité les zones de l'Est. Et vous souhaitez qu'il y ait cet encouragement, cet appel à pouvoir le soutenir. Merci beaucoup, Charles. Sonville, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour M. Pierrot, bonjour à notre invité, bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
C'est avec consternation M. Pierrot que nous avons appris cette tuerie sauvage, cet acte ignoble commis par je ne sais quel genre d'homme. Mais néanmoins, nous avons aussi été profondément catastrophés M. Pierrot par la perte de ces 14 casques bleus tanzaniens à Semuliki. Le jeudi dernier, c'est-à-dire le 7 décembre. C'est-à-dire que ces casques bleus sont tombés sur les champs d'honneur, sous les drapeaux des Nations Unies, pour une cause noble. Une cause noble, c'est quoi, M. Pierrot? Ramener et consolider la paix dans la région de Béni, à l'est de notre pays. Mais c'est avec beaucoup de tristesse et fureur, M. Pierrot, que nous constatons que les contingents tanzaniens, M. Pierrot, qui continuent à payer les plus lourds tributs, mais nous ne pouvons pas en comprendre. Et nous condamnons énergiquement ces lâches tueries, M. Pierrot. Et disons un châtiment, M. Pierrot, exemplaire pour leurs auteurs. Puisque trop, c'est trop. Ces jeunes gens, ces braves hommes sont venus de la Tanzanie pour venir à la rescousse. Et comment ne pas nous incliner, M. Pierrot, devant la mémoire de ces illustres artisans de la paix et ne pas avoir au moins une pensée pour leur famille. Vous voyez que maintenant, ces gens-là viennent de laisser leur famille dans la tristesse. Aussi longtemps qu'ils sont venus combattre pour la République démocratique du Congo, ramener la paix sous les drapeaux des Nations Unies. Et j'aimerais que, M. Pierrot, les noms de ces 14 héros s'inscrivent à lettres d'or au panthéon des martyrs de la paix dans notre pays et que ces noms puissent rester à jamais gravés dans nos mémoires. Je saisis cette opportunité, M. Pierrot, pour présenter mes condoléances les plus attristées. Tout en exprimant aussi, M. Pierrot, ma grande admiration pour le dévouement et la bravoure de tous les braves casques bleus qui, chaque jour, risquent leur vie pour la paix en RDC. M. Pierrot, nous ne pouvons pas comprendre comment est-ce que ces actes se sont commis. Pour moi, j'estime que c'était avec préméditation, c'était bien planifié, puisqu'on ne comprendra pas comment est-ce que le jeudi même, ces gens-là sont entrés, ils ont coupé la communication. Ce sont déjà habitués à entrer dans ce cas. Et c'est, je dis, mais nos forces armées congolaises devraient aller prendre leur vivre. Ces forces armées congolaises ne sont pas parties. Mais par contre, nous apprendrons qu'il y a eu tuerie. Et si peut-être les Tanzaniens n'ont pas su se défendre, c'est plus que vous avez vu, d'après ce que nous avons oui dit, que ces gens-là étaient habillés en uniforme de l'armée congolaise. Voilà ce qui crée un peu aussi une certaine confusion. Nous ne savons pas qui a été à la hauteur de cet acte ignoble. Seulement, M. Pierrot.
Et alors là, on va laisser. Oui, merci beaucoup, Sonville. Merci pour tous les messages de compassion et de soutien de famille. Quant à savoir qui a fait quoi, dans quelles conditions cela est arrivé, il faut s'en remettre aux différentes enquêtes qui vont être menées et qui sont en train d'être menées. Il y a les Nations Unies. Les enquêtes ont été réclamées presque par beaucoup de personnes. Mais vous avez salué la mémoire de tous les autres militaires qui sont engagés aux côtés de la RDC dans la lutte contre les groupes armés, pour la restauration de la paix, la sécurité et l'autorité de l'État. Mais quant aux autres contours, n'est-ce pas, de cette question, on laisse la responsabilité à ceux qui mènent les enquêtes. Merci beaucoup, Sonville. Augustin, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour, Pierrot, et bonjour, je suis Pierre de la Radio Capi.
On vous écoute, Augustin.
Oui, après, déjà, je souhaite d'abord mes condoléances les plus attristées aux familles qui sont éprouvées. Ben, je vais d'abord articuler mon intervention. D'abord, encourager, comme le premier auditeur a parlé, d'abord encourager le militaire qui reste à ne pas se décourager. Et j'aimerais aussi m'attaquer d'abord au gouvernement congolais, pas plus m'attaquer, mais à une prise aussi des responsabilités. Vous allez même vous rendre compte qu'il y a eu une attaque. Ce qui sont plus, c'est le nombre impressionnant de personnes qui sont mortes, et ce sont plus le militaire de la MONUSCO. Il faut que le FARDC, soit le ministère aussi ayant l'étiquette de la justice, même aussi de l'intérieur, de la sécurité, que ces organisations puissent aussi travailler en collaboration avec la MONUSCO. Parce que vous, comme vous le savez, faisons un peu un recul, vous savez, cette partie de l'Est est une partie qui, à chaque fois, la population est toujours dans la sécurité totale. Et chaque fois, lorsqu'il y a une déclaration où on demande que la MONUSCO puisse quitter cette partie, il y a toujours la population qui est là, qui est prête pour déclarer non, on doit rester avec cette population, avec ces gens. Parce que nous remarquons que ce peuple souffre. Nous demanderons au gouvernement congolais de ne pas seulement, je prends à titre d'exemple comme le ministère de l'Intérieur et Sécurité. C'est un ministère qui doit vraiment travailler en collaboration avec la MONUSCO dans cette partie Est. Mais nous nous rendons maintenant compte que ce ministère se focalise plus à passer dans les provinces. Il y a, vous allez voir, qu'à réprimer les gens dans les organisations, dans les actions. Or, c'est le ministère clé qui pourrait vraiment travailler en collaboration avec la MONUSCO.
Merci.
Pour mettre aussi la main à tous ces rebelles. Mmh. Et nous demanderons aussi qu'il y ait une forte implication de la justice à pouvoir mettre le main sur ces rebelles qui ont commis vraiment cette attaque meurtrière.
Merci. Merci beaucoup, Augustin. Vous condamnez, mais vous souhaitez qu'il y ait plus de collaboration entre les différents services de sécurité de la RDC ainsi que de la MONUSCO. Merci beaucoup. Plusieurs commentaires sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Isaac Bampouriki nous dit ceci: l'affaire des ADEF et des autres groupes armés devient finalement un grand mystère, alors que c'est beaucoup plus la RDC qui en fait les frais. Les efforts tant militaires que diplomatiques de notre État sont peu perceptibles en dehors du fait qu'on s'acharne plus à ceux-là qui contestent le pouvoir. On aurait aimé voir des actions d'envergure menées par le gouvernement. D'ailleurs, Isaac Bampouki revient sur cet appel d'un ancien président tanzanien qui avait souhaité que le Rwanda et l'Ouganda discutent avec des rébellions respectives de leur pays, mais malheureusement, il n'a pas été appuyé, alors que c'est la RDC qui paye les prix. Ça, c'est Isaac Bampouri qui est sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Willy Fulgence Mbombo, du point de vue diplomatique, cette attaque meurtrière ne peut nullement pousser la Tanzanie, comme d'autres États, à rompre leurs relations diplomatiques construites durant des longues années avec la RDC. La Tanzanie a compris que les aléas ne manquent pas et que la sécurité de la RDC, c'est une question de l'ensemble de la région. C'est pas ce que pense également Pegu Kabwende sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Ignace, vous êtes à Colésie, bonjour.
Bonjour, merci pour la parole.
On vous écoute.
Je pense que, comme je l'ai dit sur la page Facebook, les soldats tanzaniens, ce sont des héros qui sont morts armes à la main pour l'intérêt de notre pays. En fait, ce que l'ambassadeur a déclaré est tout à fait normal. Comme quelqu'un venait de le dire, ils se sont engagés comme membres des Nations Unies pour l'établissement de la paix. C'est dans ce cadre qu'ils sont venus. Mais cela doit nous interpeller, ces étrangers qui viennent mourir chez nous. C'est là que je me dis que c'est ici une interpellation par rapport à notre société qui, depuis un certain temps, s'est laissée glisser dans ce que moi j'appelle un désordre de gestion, au point que le problème sérieux de sécurité est aux mains des étrangers. Donc notre sécurité aujourd'hui est gérée par la communauté internationale, même si on va dire que nous sommes aussi membres de cette fameuse communauté internationale. Mais c'est là que je me pose une autre question. Quelles sont les retombées des réformes de notre armée? Ça fait une vingtaine d'années bientôt, ça fera bientôt 20 ans, que l'Est est toujours en train de bouger. Je me dis, ce sont des rebelles. Mais ici, chez nous, on dit que ce sont des présumés. On a continué avec ce terme, ça fait très longtemps. Voilà pourquoi je voudrais aussi que l'on puisse réfléchir sur la fameuse diplomatie agissante qui avait été déclarée par le président de la République. Hein, on doit voir nos voisins qui sont en face de nous et dont les rebelles sont ressortissants pour qu'on puisse traiter avec l'Ouganda afin qu'on puisse arriver à mettre définitivement fin à ce qui a pris trop de temps et qui a emporté la population. Donc encore une fois, en présentant des condoléances aux héros tanzaniens qui sont morts, mais ce doit être pour nous une interpellation pour que nous puissions congolais nous-mêmes nous engager dans la sécurisation de notre espace en organisant bien la politique nationale de notre pays. Voilà un peu ce que moi je voulais dire.
Merci beaucoup Ignace, c'est important. Vous avez voulu savoir d'où sont les retombées de la réforme aujourd'hui de l'armée, des services de sécurité, pour voir que la sécurité doit être gérée par le pays pour éviter qu'elle soit pilotée par la communauté internationale. Et d'ailleurs cette question du travail qui doit être fait entre les différents pays, c'est ce que notre ami Nelson Betuma, qui est à Kisangani, dit sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mais pourquoi peut-on parler de rebelles ougandais alors qu'ils n'ont jamais attaqué en une seule journée l'Ouganda? Ils ne font que opérer sur les sols congolais. Quelle est notre responsabilité de pouvoir aller vers les Ougandais et résoudre cette question? Parce que ces ADEF ne commettent pas des crimes dans leur pays, mais plutôt ils commettent des crimes sur les sols congolais. On retourne ici à Kinshasa avec vous, Félicien. Bonjour. Félicien, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, des petits soucis des lignes avec Félicien, le temps qu'on puisse le reprendre par la réalisation. C'est bon, Félicien, vous êtes avec nous? Voilà, on écoute, on revient à notre invité Augustin Mongé Mossi. Vous avez suivi les compatriotes qui sont exprimés tout à l'heure. Il y a cette question qui revient sur, comme vous l'avez dit, l'alliance stratégique, le pays de la sous-région, pour voir comment régler la question de ces rébellions qui causent du mal. Les ADEF causent du mal sur les sols congolais et même non pas en Ouganda. Faudrait-il aujourd'hui avoir des discussions franches et sincères entre ces pays pour résoudre cette question de ces rébelles?
Il y a un problème. Hein. Le problème, c'est l'espace. Est-ce qu'au niveau de la sous-région, ils ont une organisation capable de les mettre ensemble? Ça, c'est tout le problème. D'abord, vous allez remarquer avec moi qu'ils ont la CRJM. Regardez, prenez la carte de la CRJM, la carte géographique de la CRJM. Vous allez mettre la République centrafricaine où? Vous allez mettre les Congo-Brazzaville où? Vous allez mettre même les Gabon où? Vous allez mettre même une partie de la Tchad où? Le Tchad plutôt a un problème. La Centrafrique a un problème. Partout, il y a des problèmes. Les rébellions, ce n'est pas simplement à l'est de la RDC. Hein? Le site aussi, c'est le site de Congo-Brazzaville, la région du Poule. Il y a des problèmes partout. Ce n'est pas simplement au Congo. Les problèmes qui sont venus, malheureusement, c'est la mort de ces casques bleus, parce qu'ils sont d'abord des casques bleus. Vous parlez simplement des Tanzaniens. Vous oubliez que ce sont les casques bleus. Les casques bleus de l'ONU, et les tuer, c'est un crime de guerre. Même si ce sont les ADF qui les ont assassinés, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de pouvoir poser la question, la suite, c'est comment? Qu'est-ce qu'on fera pour que ces genres de pratiques ne se répètent plus? Tout le problème, c'est ça. Moi, je l'ai déjà proposé, il y a de cela 2 ans, j'ai demandé qu'on crée une union de ces États, des États qui sont au centre de l'Afrique. Quand ils seront ensemble, ils auront un commandement unique, un commandement unique au niveau de la sous-région, comme ça ils pourront très facilement ensemble travailler pour essayer une fois pour toutes, soit à la fois de négocier, aussi de réprimer. Parce que vous savez qu'en sciences des relations internationales, vous avez l'approche diplomatico-stratégique. À la fois vous pouvez faire la guerre, mais à la fois vous pouvez aussi négocier la paix. Hein? Vous voyez, les mécanismes mis en place, même dans le cas de la MONUSCO, est-ce qu'ils ont déjà prévu les mécanismes qui vont ramener ces gens-là à la table des négociations? La plupart des cas, non. Non. Est-ce qu'ils ont prévu des mécanismes pour pouvoir les traquer vraiment à fond? Presque non. Il faut les traquer, il faut les suivre partout. 14 personnes, ce n'est pas 2 personnes. Ah, c'est beaucoup. Il faut les traquer. On ne sait pas, mais je crois qu'au niveau du commandement des Nations Unies, ils sont en train de prendre les mesures
Exact. Et ce que vous avez évoqué sur la collaboration entre les États de la sous-région, c'est très important. Avoir un commandement unique dans le cadre des États, de l'Union des États de l'Afrique médiane, c'est ce qui peut rendre encore les opérations plus souples pour éviter que les efforts soient dispersés. Félicien, vous êtes revenu avec nous. Cette fois-ci, c'est bon. Bonjour.
Bonjour Pierrot. Bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, mais je rends d'abord hommage à ces casques bleus et je présente les condoléances à toutes leurs familles. Et je remercie aussi l'ambassadeur tanzanien pour cette détermination de rester aux côtés des Congolais qui souffrent. Et moi, je pense que nous devions prendre ces problèmes au sérieux, surtout notre classe politique. La rébellion ADEF, et quand on parle de la rébellion, c'est-à-dire que des gens qui se soulèvent contre les pouvoirs établis dans leur pays. Mais les ADEF sont des Ougandais, ils se rébellent contre le Congo, ils viennent attaquer les Congolais. Les FDLR sont les Rwandais, c'est au Congo qu'ils viennent faire des massacres, qu'ils viennent piller, qu'ils viennent violer, qu'ils viennent tuer. Et les LRA sont des Sudanais. C'est au Congo qui vient piller, qui est volé, tuer et tout ça. Mais finalement, ces voisins-là devaient plutôt, si la Tanzanie veut nous aider, ils devaient prendre le leadership pour convoquer les Rwandais, le Ghana, le Soudan et faire une conférence peut-être ou je ne sais pas comment on peut appeler pour amener ces pays-là à laisser les Congo tranquilles. Mais ça venait nous aider toujours. On tue à gauche. Ils sont à droite et pour aller là-bas, mais les gens sont déjà tués. Quand on à droite et ils courent là-bas, les femmes sont déjà violées. Et nous vivons avec cette insécurité pendant plus de 20 ans. Mais ça va se terminer comment? Et je pose la question à la classe politique. Pourquoi seulement maintenant? Nous avons fait 32 ans avec Mobutu. Pourquoi les voisins ne nous attaquaient pas? Mais nos richesses étaient toujours là. Pourquoi seulement maintenant? Et avec une classe politique médiocre telle que nous l'avons, est-ce que vous pensez que ce pays s'en sortira? Moi, je pense que la déliquescence de notre pays, de la République démocratique du Congo, est en train de profiter aussi à nos voisins africains. Et nous avons de rester dans cet état de choses des années durant et même des siècles, si on ne prend pas la chose au sérieux.
Merci beaucoup. 081-890-4969 et vous avez posé un vrai problème, Félicien, que ce soit l'FDLR, le LRA, les ADEF, tous ces groupes rebelles n'attaquent pas leur pays, ils attaquent sur le sol congolais. Pourquoi ne pas prendre leadership, par exemple, au niveau de la Tanzanie, convoquer ces États, voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions à l'intérieur de leur pays pour résoudre cette question. Mais là aussi, ça doit passer par un leadership fort en RDC et le renforcement de la gouvernance dans notre pays. 081-890-4969 pour intervenir en direct.
Un jour, une histoire. Un magazine sur l'histoire du Congo. Revivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez les personnages et acteurs de notre histoire, ainsi que leur rôle. Un jour, une histoire. C'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion, le dimanche à 20h30, le mercredi à 14h15.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous avons aussi en ligne Monsieur Juvenal Munobo, député national élu de Walikale dans la province du Nord Kivu, où exactement ces atrocités ont été commises. Monsieur Munobo, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'avoir accepté rapidement notre invitation pour placer un mot dans cette émission. Alors, au niveau de la classe, vous avez suivi tout à l'heure Félicien qui a chargé la classe politique congolaise parce que c'est elle qui a la responsabilité de la sécurisation des personnes et de leurs biens au-delà du fait que nous sommes appuyés par les Nations Unies. Quelle est votre réaction face d'abord à ce drame et à une attaque comme celle-ci?
C'est déplorable, hein. Les drames de Beni ne datent pas seulement à partir de l'attaque ou du meurtre des casques bleus. de l'attaque contre les casques bleus. Le drame de Beni, ça date depuis fin 2014. Et selon les décomptes, on serait à plus de 1000 personnes tuées, selon plusieurs sources recoupées, même les sources de la société civile locale. C'est pour dire que c'est un véritable drame. C'est très préoccupant et le premier responsable pour ramener la sécurité, c'est le gouvernement congolais. Donc, vos auditeurs qui estiment que le gouvernement congolais devait prendre ses responsabilités, eh bien, ils ont raison. Ils ont raison sur toute la ligne. Parce que le premier responsable de la sécurité ou de la sécurisation du territoire, de la sécurité des personnes et des biens, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a l'armée pour protéger les frontières. C'est le gouvernement qui a la police censée sécuriser les personnes et les biens. C'est le gouvernement qui a également la justice, le ministère de la justice, les cours et tribunaux, c'est au niveau du Congo. Eh bien, ces institutions devaient faire leur travail. Il faut saluer aussi la mémoire de ces casques bleus tanzaniens, parce que les Tanzaniens, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fait un bon travail. Et c'était au niveau de la brigade d'intervention. Souvenez-vous la chute du 1-23. Si nous y sommes arrivés, c'est parce qu'il y avait à un moment donné un commandement fort côté FARDC. Et je pense ici au fait général à titre posthume, colonel Mamadou et au général Bahouma. Il y a eu ça qui a permis la chute du 1-23, mais il y a eu aussi l'appui que les FARDC, dont ils ont bénéficié de la part notamment des Tanzaniens. Donc moi je salue leur mémoire, c'est des vaillants combattants, c'est des vaillants soldats qui sont arrivés ici, se sont intégrés et ils ont collaboré à leur niveau avec la population civile, parce qu'une autre dimension, je le dirai après peut-être, c'est la collaboration entre les forces de l'ordre et la population locale. Les FARDC doivent collaborer avec la population locale, tout comme la MONUSCO doit collaborer avec la population locale, et la collaboration doit être permanente, sincère, entre les FARDC et la MONUSCO.
Rappelons
ça,
quand même, oui,
c'est des éléments, des paramètres qui peuvent nous aider à vaincre cette guérilla, cette guérilla des ADF Nalu. Il faut identifier, comme on l'a dit dans une émission Dialogue entre Congolais autour de ces sujets il n'y a pas longtemps, il faut qu'on arrive à identifier qui tue à Beni. Est-ce que c'est uniquement les ADF, c'est-à-dire des Ougandais? Est-ce qu'il n'y a pas de complicité à partir de certaines milices dans les Kivu? Il faut voir ça. Et puis autre question à laquelle il faut répondre. Qui alimente les ADF Nalu? Quel est le nerf de la guerre? Ils s'approvisionnent en quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un business? Parce que chaque fois qu'il y a une guerre à l'est du Congo, il faut toujours voir à côté un business qui se développe. Est-ce qu'il n'y a pas un business qui se développe parallèlement?
Les parlementaires avaient mené
une mission d'information, mais qui devait se transformer en une commission d'enquête. On a fait des recommandations, mais ces recommandations, jusqu'à présent, sont restées lettres mortes.
Avant d'arriver à ça, je rappelle que vous êtes membre de la commission défense et sécurité et président rapporteur de la sous-commission.
Sous-commission forces armées, oui.
Sous-commission forces armées. Tout à l'heure, il y a notre ami Ignace qui nous a appelé des Colosies, qui posait la question sur le retombé de la réforme de l'armée, parce que 1000 personnes tuées jusqu'à attaquer une base de la MONUSCO, tuer des casques bleus, c'est quand même assez flagrant pour des gens qui vivent dans la forêt où il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passe. Et vous, au niveau de la commission, a-t-on déjà examiné cette question de retomber aujourd'hui de la réforme de l'armée, parce que c'est une question qui a été posée par Ignace?
En fait, le ministre de la Défense a déjà été auditionné chez nous. Bon, ça n'était pas pour faire le bilan de la réforme de l'armée, mais c'était par rapport justement à l'insécurité, les ADF, les drames de Beni. Tout comme le ministre de l'Intérieur, il y a de cela quelques mois, quelques années. Mais ce qu'il faut dire, il faut dire la vérité, c'est que la réforme du secteur de sécurité, c'est un échec en République démocratique du Congo. Prenons la réforme de la police, qui semblait avancer jusqu'à une certaine date. La police a profité des formations. Il y a eu même, il y a une loi organique de la police, il y a un statut du policier. Mais le problème, c'est quoi? Le plan d'action pour la transformation de l'image de la police n'est pas financé, il y a pas l'argent pour ça. Et puis la police donne l'impression qu'elle n'est pas éduquée aux droits humains. Toutes ces répressions des manifestations pacifiques à gauche, à droite. La police qui continue à rançonner et à réprimer. Prenons l'armée. Il n'y a pas un plan, nous le disons chaque fois, nous rappelons chaque fois, il n'y a pas un plan d'action au Congo de la réforme de l'armée, en République démocratique du Congo. Donc on gère l'armée avec un budget annuel, Et le contrôle de l'exécution de ce budget souffre encore du secret défense ici, parce que tout ce qui touche à la défense, comme on l'avait dit au cours d'une émission de Parole aux auditeurs, est couvert du secret ici. Et le secret défense n'est pas délimité. Tout relève du secret. On a comme l'impression que tout relèverait du secret. Et donc la réforme de l'armée aussi piétine. Hein, la réforme de la police aussi piétine. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. Et les services de renseignement, n'en parlons même pas. Il n'y a pas un plan, par exemple, pour transformer l'image des migrations, l'image des renseignements. Donc, les renseignements que nous avons, c'est l'héritage de plusieurs régimes. Alors, c'est un domaine qui est véritablement un ventre mou. Ça n'avance pas. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec cet auditeur que si tout ceci nous arrive, parce que le secteur de sécurité au Congo reste fragile quand même.
Il y a moyen,
s'il y avait la volonté, même si on n'a pas encore réformé l'armée ou la police, il faut faire chaque fois la mise à jour des commandements. Cela est très important parce que, comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Il faut s'assurer qu'on a un bon commandement. Et si vous posez la question à l'Est, tout le monde vous dira, il nous faut un commandement comme celui de Mamadou, par exemple. Donc il faut y veiller, et chaque fois nous rappelons ça, en tout cas, chaque fois que l'occasion se présente, chaque fois qu'il y a un débat autour des questions sécuritaires, nous ne manquons pas de rappeler cela.
Il y a une question qui va revenir à vous en tant que député, le temps d'écouter Fabrice qui est à Bounia. On vous garde en ligne parce qu'il y a une question qu'on va vous poser en tant que député. Fabrice, vous êtes avec nous, vous nous appelez de Bounia. Bonjour Fabrice.
Bonjour, c'est Fabrice qui s'appelle la partie de Bounia en Ituri.
On vous écoute Fabrice.
Oui. Moi, je vais essayer de revenir un peu dans l'histoire. Quand on essaie de voir l'histoire de ces groupes armés, nous voyons qu'avant d'abord, on parlait des navires. Et typiquement, comme ça, vous allez voir qu'on a changé de nom, actuellement, on parle des ADEF. Les navires, avant, ne s'attaquaient pas à la population. Mais aujourd'hui, quand on a changé le nom ADEF, il y a eu directement un changement de mode opératoire. Alors, moi, je crois que ces groupes armés, quand on parle de ADEF, ce ne sont plus les Ougandais. C'est un groupe armé qui s'attaque à la République démocratique du Congo. Donc, c'est un groupe armé congolais. Quand on parle maintenant des ADEF, vous allez voir que ce sont des éléments qui sont occupés par plusieurs pays. Vous allez voir, on y retrouve les Ougandais, on y retrouve les Tanzaniens, les Somaliens, les Congolais, les Burundais. Il y a plusieurs nationalités dans ce groupe armé. Et il n'y a pas beaucoup de jours, il y a même une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on refusait un djihadiste, un arabe, qui s'est exprimé en arabe, appelant les autres musulmans à venir en République démocratique du Congo pour continuer leur résultat. Alors, moi j'aimerais dire ceci. Pour mettre fin à ces groupes armés, il faut que tous ces pays, bien sûr, pour une région, se mettre ensemble et discuter, prendre des modalités comment mettre fin à ces groupes armés. Aujourd'hui, on retrouve les ADF en République démocratique du Congo. Demain, vous allez voir que ça peut changer. C'est même les ADF peuvent aller attaquer l'Ouganda, peuvent aller attaquer le Rwanda, la Tanzanie, le Burundi. Alors, moi, je me dis ceci. Comme actuellement, les gens commencent maintenant à s'attaquer aux soldats de la paix. Maintenant, si du moins ces soldats venaient
Voilà, merci beaucoup Fabrice. Fabrice, rappelons quand même pour plus de précision, vous l'avez dit, le fait qu'on ait changé d'appellation des ADEF, on appelait ADEF Nalu, on a estimé par l'Ouganda que les Nalu, eux, ils ont rejoint le gouvernement, ils ont déposé les armes, c'est pourquoi ceux qui sont restés s'appellent les ADEF, on n'appelle plus encore aujourd'hui ADEF Nalu, les Nalu ont pu rejoindre leur pays pour se réconcilier et pouvoir travailler. Mais vous dites que cela va au-delà même de l'Ouganda, parce que on y retrouve autant de nationalité, et c'est une nébuleuse qu'il faudrait aujourd'hui voir comment préciser les contours. Mais quant à la vidéo sur les réseaux sociaux avec les appels au dialogue, vous savez qu'il y a sur les réseaux sociaux beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler. Mais pour vous, le travail doit être fait entre l'ensemble de ces pays pour éviter que cela parte une partie de la RDC pour atteindre d'autres pays. Alors Augustin Mongemo, si vous avez suivi ce que disait tout à l'heure le député Juvenal Monobo, la question de la politique intérieure pour la RDC, elle est quand même assez intéressante pour arriver même à conjuguer les efforts avec l'ensemble de pays. Mais si nous avons des petits soucis, par exemple, de gouvernance interne en termes de réforme de l'armée, Augustin Mongemo, c'est pensez-vous que cela ne puisse rendre l'action plus forte au niveau de la sous-région? Augustin Mongemo aussi. Augustin, vous êtes avec nous.
Non, il faut tout écouter. Ils ont raison. Regarde, moi je suis en train d'intervenir ici sur la radio.
Voilà, on a des petits soucis là avec notre invité qui semble être en discussion avec les gens tout autour de lui. Arsène, merci d'être avec nous. Vous nous appelez des Kikuites. Bonjour Arsène.
Oui, allô?
Ah oui, c'est Arsène. Vous êtes à Kigali, pas à Kikuite. Ouais, voilà, vous êtes à Kigali. Arsène, bonjour.
Oui, bonjour. Je remercie encore de m'associer dans les débats et je présente mes condoléances à toutes les familles de nos cas ciblés. Mais nous, nous faisons d'abord une analyse par rapport aux tueries de ces cas ciblés. Et ici, même au niveau de Kigali, on se demande concernant la mort de ces cas ciblés et on est en train de faire des jugements, sachant que c'est la MONUSCO elle-même qui soit à la base des tueries de ces cas ciblés. Et nous, selon notre analyse, nous voyons qu'il y a une vérité et ça pouvait être vrai parce que on ne peut pas comprendre comment piloter toutes les stratégies pour entrer dans des cas et aussi les gens, nous les voyons dans des Facebook et dans des WhatsApp. Nous comprenons que la MONUSCO ne veut pas que la paix revienne dans notre pays parce qu'on ne peut pas comprendre toutes choses. On est en train de les attribuer au nom des ZADES. On est en train de faire des trahisons eux-mêmes et nous, nous avons compris qu'il y a une vérité parce qu'on pouvait faire une analyse lorsqu'un ennemi entre dans les cas et aussi, quand il n'est pas de complice, on peut se poser des questions et nous voyons que c'est vrai. Et autre chose, messieurs les journalistes, pourquoi seulement ce sont des cas ciblés de la Tanzanie qui sont morts? Pourquoi? On comprend qu'on est en train d'exciter la Tanzanie, pour que la Tanzanie soit l'ennemi du Congo, et par après, on se rendra compte qu'ils sont en train de refuser pour installer la paix. Parce que ce sont les Tanzaniens qui sont performants pour lutter contre les ADF. Tous les Bangladeshiens, les Pakistanais, bon, d'autres choses, vraiment d'autres nationalités qui sont dans la MONUSCO, ils ne sont pas performants. C'est pourquoi ils sont en train de regarder une vérité en sachant que si on laisse la Tanzanie à côté, nous serons fatigués et demain la mission va prendre fin et nous allons encore retourner en arrière.
Et d'ailleurs, au-delà de toutes les accusations, Arsène, au-delà de toutes les accusations, il reste à mener des enquêtes pour savoir, parce que vous êtes très inquiet, vous dites, mais comment peut-on laisser les gens se préparer, venir jusqu'à attaquer une base? Ça, on laisse à la compétence de ceux qui mènent les enquêtes, mais vous êtes très inquiet par rapport à ça. Y a-t-il des complicités, y a-t-il des trahisons à l'interne? Tout ça, ce sont des questions qui ne peuvent être traitées que par des enquêteurs, mais votre souci, c'est de voir que la paix puisse revenir. Pourquoi avoir attaqué les Tanzaniens qu'on estime être plus efficaces, c'est votre point de vue, mais le reste, le travail à ceux qui mènent les enquêtes pour nous les dire. Je reviens à vous, Augustin Mongebossi, je disais tout à l'heure, vous proposez cette alliance stratégique, mais faudrait-il aujourd'hui au niveau de la politique interne, vous avez suivi les éléments présentés par Monsieur Juvenal Monobo, qui est député national, faudrait-il aujourd'hui qu'au niveau de la politique interne, qu'on ait assez une politique sécuritaire bien définie clairement, comme ça il peut jouer le rôle dans l'ensemble de la sous-région avec les autres pays pour mettre fin à ces groupes rebelles, Augustin.
Monsieur Perron, pour ce que vous devez vous rappeler vous-même, un pays, d'abord, c'est une armée. Un pays égale une armée. Vous n'avez pas besoin de parler d'un pays sans une armée. L'armée est l'épine dorsale même de l'avenir d'un pays. Sur le plan interne, la politique nationale doit concentrer les efforts dans la modernisation et la professionnalisation de l'armée. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire parce que c'est les États-Unis d'Amérique. Non, on copie toujours ce qui est bien. Prenez l'exemple des Américains. Le président Donald Trump accède au pouvoir. La première chose, il informe le monde entier que le budget alloué à la défense nationale doit être ajoutée. Vous savez pourquoi? C'est pour la protection, mais aussi pour la sécurisation des intérêts des Américains. Les intérêts ne sont pas simplement sur le plan national. Les intérêts peuvent l'être aussi sur le plan international. Vous savez, les Tanzaniens sont là. Vous savez, quand la MONUSCO fait appel aux troupes, qui veut, qui ne veut pas, ne viendra pas. Ils viennent parce qu'ils savent que les devenir de l'Afrique se trouvent entre les mains des Congolais. Moi, je vous dis, je le dis, je le répète, vous voulez une Afrique nouvelle, commencez par construire un Congo nouveau. Le Congo nouveau passe aussi par la mise en œuvre des mécanismes qu'ils ont eux-mêmes édités à la CERGIEL, à la CIAC, la SADEC, un peu partout. Mais moi, j'ai un problème sérieux, M. Pierrot, c'est quoi? C'est que quand nous parlons des sous-ensembles que je suis en train de dénombrer, il se pose un problème. Le problème, c'est l'écartement du Congo. La RDC est au centre, mais quand vous prenez le sous-ensemble que je suis en train d'énumérer, vous allez vous constater avec moi qu'ils sont en train de dépiécer la RDC. Moi, je propose un cadre nouveau qu'on se mette ensemble autour d'une union des États de l'Afrique médiane. C'est-à-dire des États qui commencent par ça de l'océan Atlantique jusqu'à l'océan Indien. Les États qui sont au milieu de l'Afrique. Il y en a 15. Mettez-les ensemble. Ils ont construit ce que moi j'appelle une doctrine de stratégie. Une alliance stratégique. Une alliance qui sera construite autour de ce que j'appelle l'intérêt vital des États
Merci.
De la région. Ils vont construire ça calmement, calmement. Ils vont mettre les États-majors ensemble, ils vont mettre les moyens de renseignement ensemble, et vous verrez dans moins de deux ans, dans moins de deux ans, la région sera pacifiée. Comme vous voulez parler de la RDC sur le plan national, mais vous devez comprendre que la RDC, c'est déjà un État international. Hein. La RDC est le seul pays qui soit au centre des intérêts des uns et des autres. Il y en a qui n'ont pas des intérêts comme chez nous. Quand vous voyez les rébellions, ça et là, à gauche, à droite, vous devez comprendre vous-même les besoins et la raison même qui doit nous
voilà,
interpeller, nous, les Congolais.
Ok. On revient à vous rapidement à la dernière question, Juvenal Monobo, parce qu'il y a cette question de la sous-région. Vous l'avez suivi, notre invité Augustin Mongemosi insiste sur le regroupement. Mais rappelons quand même qu'avec l'élargissement de la CIRGEL aujourd'hui, pensez-vous qu'il y ait une dynamique aujourd'hui, Juvenal Monobo, qui permet à ce que ça soit le Rwanda, l'Ouganda qui appartient, ces ADEF entre guillemets, que ça soit le Rwanda et les autres, ont-ils un franc jeu avec la RDC aujourd'hui dans les discussions pour qu'il y ait des engagements à l'interne dans leur pays pour résoudre cette question de ce groupe rebelle qui évolue en dehors de leur pays?
Merci beaucoup. Il y a eu la CPGL, souvenez-vous, à l'époque de Maréchal Mobutu. Et maintenant, on nous parle de la CIRGEL. Évidemment, la CPGL a été redynamisée. Eh bien, il faut aussi faire le bilan de ces organisations sous-régionales dont fait partie la République démocratique du Congo. Mais moi, il me semble, une lecture toute objective, il me semble que la CPGL prenait un certain nombre d'engagements. On voyait bien que dans le cadre de la CPGL, par exemple, le Zaïre aidait le Rwanda. Souvenez-vous, avec le général Mayele qui était parti au Rwanda. Et donc, quel est le bilan de la CIRGEL? Parce que la CIRGEL, c'est plusieurs États, vous l'avez rappelé. Est-ce qu'il y a de la sincérité au sein de la CIRGEL? Il y a des accords qui ont été signés. Prenons le cas de l'accord cadre d'Addis Abeba. Qu'est-ce que ça a produit comme résultat? Est-ce que l'Ouganda veille à ne pas déstabiliser le Congo? Est-ce que le Rwanda veille à ne pas déstabiliser le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas ceux qui tuent au Congo qui tentent de trouver des bases arrières de l'autre côté? Est-ce que la frontière commune, elle est sécurisée? Est-ce que les incursions ont cessé? Est-ce que le mécanisme conjoint de vérification des frontières travaille comme il se doit? Et moi, je pense que ça ne suffit pas de s'engager ou d'engager son pays dans une organisation sous-régionale. Mm-hmm. Moi, je crois que les objectifs et les programmes ayant été bien définis, il faut travailler. Il faut pour cela de la sincérité. La
Merci.
Diplomatie, c'est aussi la sincérité.
Merci.
La diplomatie, c'est l'engagement. La diplomatie, c'est la sincérité. Et comme vous l'avez dit à un moment donné, il faut d'abord avoir un secteur de sécurité fort pour se mettre en position. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas, si vous n'avez pas un système de sécurité efficace, ça va être difficile de se faire respecter aussi sur le plan régional.
Merci, donc, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Juvenal Munobo. Je rappelle que vous êtes député national élu de Walikale au Nord Kivu et membre de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale, rapporteur de la commission Forces Armées. Merci d'avoir été avec nous. On va terminer avec vous, Bernard. Vous êtes à Lubumbashi. Il est temps de permettre à notre invité de pouvoir conclure. Bernard, bonjour.
Bonjour, je salue tous les auditeurs de Radio Okapi.
Oui, on vous écoute, Bernard.
Oui, oui. Je crois que pour moi, je commence à saluer d'abord la mémoire des militaires tanzaniens qui sont tombés sur notre sol. C'est vraiment regrettable et déplorable pour notre gouvernement. Pour nous, moi, en tout cas, c'est l'irresponsabilité d'abord première de notre gouvernement, parce que c'est un problème de sécurité nationale. Mmh. Le gouvernement devait normalement s'y mettre, et le Parlement, je crois que ensemble ils devaient s'y mettre pour régler ce problème. Parce que les gens qui sont en train de tomber tous les jours, ce sont les Congolais. Et ces gens-là sont des étrangers. Je supporte vraiment très mal comment est-ce que nos autorités sont en train d'amasser les troupes militaires à Lubumbashi, partout ailleurs, pour réprimer les manifestants, au moment où nos Congolais, nos compatriotes Congolais sont en train de tomber là-bas. On dirait que eux aussi savent ce qui se passe là-bas. Ils sont en train de monter un coup contre notre République.
Merci beaucoup, Bernard, parce que là, on ne peut pas aller plus loin. Il y a encore un auditeur qui s'est ajouté, qu'on lui permette de s'exprimer peut-être en 45 secondes. Et vous, vous revenez sur la responsabilité du gouvernement congolais, parce que c'est une question de sécurité nationale. Franck, dommage qu'on n'ait pas beaucoup de temps. On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je crois que l'essentiel a été dit. Nous présentons tous nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées des soldats tanzaniens, puis nous louons le militantisme citoyen de leur ambassadeur. Seulement, quand nous devons voir le nombre de groupes armés qui pilulent vers l'est de notre pays, ça donne à penser. Je crois que nous, citoyens congolais et notre gouvernement, on doit éviter de jouer à la duplicité jusqu'à ce niveau, car les latinistes ont dit « quit, quit, la tête apparaît vite ».
Pour dire.
Donc on ne peut pas continuer à jouer comme ça, il en va de la vie des gens.
Merci, merci beaucoup Franck. On revient à vous Augustin Mongemo aussi en 30 secondes pour terminer cet échange. Vous avez suivi les uns et les autres, votre mot de conclusion.
Je salue la mémoire des soldats tombés sur le front, mais je salue aussi la mémoire des Congolais qui tombent chaque jour. Mm-hmm. Et je dois déjà dire que la responsabilité morale de la République démocratique du Congo est engagée.
Merci.
Si pas civile mais morale, alors la sincérité dans les choses des États n'existe pas. Je dois rappeler à l'honorable que les intérêts des États priment sur le tout. Ce que nous devons faire, c'est vraiment de nous réorganiser autour de notre armée pour pouvoir sécuriser le territoire national.
Merci beaucoup, Augustin Mongemossi. Vous êtes analyste politique. Vous avez publié un livre intitulé « La nouvelle géopolitique de l'Afrique médiane ». Merci de nous avoir donné accordé de votre temps. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Et nous recevons dans ce studio Nico Kalambay. Nico, bonjour.
Bonjour Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et demain, c'est à 10h, heure de Kinshasa.
Parce que juste après, il y aura la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Donc nous serons là à 10h pour notre échange. Et Pierrot, vous savez, révision du code minier. L'industrie minière exprime ses inquiétudes face à certaines dispositions proposées par le gouvernement dans le nouveau code révisé dans un communiqué de presse rendu public la semaine dernière. Une dizaine des sociétés minières opérant en RDC dénoncent la multiplication des autorisations et agréments, augmentation des impôts, taxes et redevances. Elles invitent par ailleurs le gouvernement à associer réellement aux discussions toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé et la société civile, pour que le nouveau code contribue à stimuler l'investissement dans ce secteur. Qu'en pensez-vous? C'est la question que nous avons posée aux auditeurs et question à laquelle ils répondront demain à 10h de Kinshasa.
Et comment vont-ils procéder pour intervenir?
Ils nous appelleront au numéro habituel.
0-81-890-49-69.
Et ce sujet sera disponible sur notre page Facebook tout à l'heure, l'émission que vous venez d'animer également.
Merci beaucoup Nico, on se retrouve demain à 10h.
Merci Piro.
Allô? Allô? Je m'appelle Robert, j'appelle depuis Kinshasa.
Polydor Basunga était à la mise en onde. Pierrot Elamegi vous a présenté ces magazines réalisés par Nico Kalambay, Martin Seboujangoula supervisé. On se retrouve demain en compagnie de Radio Kabi. En attendant, d'agréables moments et le programme se poursuit sur les antennes de la fréquence de la paix. Au revoir.